Il est 15h ici à Paris et à Belgrade. Bonjour à tous.
Karine Bellicha.
À la une, une nouvelle manifestation d'étudiants en Serbie, toujours mobilisés après l'accident mortel à la gare de Novi Sad en novembre, devenu le symbole de la corruption dans le pays. On retrouve Laurent Rouy dans le cortège dès le début de ce journal. L'Ukraine doit être entendue et non pas oubliée. Le président ukrainien s'est exprimé ce matin au lendemain de la violente altercation dans le bureau ovale. Tensé, c'est le moins que l'on puisse dire, par Donald Trump. Sommé d'accepter la fin de la guerre sans condition, Moscou de son côté se frotte les mains. Les Européens affichent eux un front uni derrière Volodymyr Zelensky. Nous irons aussi en Syrie dans ce journal qui savoure son premier ramadan post-Assad. Reportage à suivre à Damas de notre correspondant Mohamed Erami. En Serbie, le scénario est maintenant déjà bien rodé. Les étudiants annoncent le nom d'une grande ville où se déroulera la prochaine manifestation et ils entreprennent une marche de plusieurs jours pour rallier cette localité et manifester en masse. Depuis novembre, ils sont à la tête du mouvement de contestation qui secoue la Serbie depuis l'accident mortel qui a fait 15 morts le 1er novembre à Novi Sad, une catastrophe devenue le symbole de la corruption dans le pays. Aujourd'hui, les manifestants sont réunis à Niš, la troisième agglomération de Serbie. Laurent Rouy, vous vous trouvez dans le cortège. Le mouvement des étudiants a fait tache d'huile, Laurent.
Alors effectivement, le mouvement a fait tache d'huile, surtout grâce à cette stratégie, si j'ose dire, de tour de Serbie, puisque toutes les deux semaines, il y a une grande manifestation dans une des principales villes ou agglomérations du pays, et entre les deux, il y a toute une série de manifestations quotidiennes dans véritablement tout le pays. Sur les 243 communes que compte le pays, 240 ont déjà connu au moins une manifestation à Belgrade et dans les grandes villes. Elles sont réellement quotidienne. Alors cette stratégie des étudiants, elle est particulièrement intéressante parce que le fait de se rendre à ces rendez-vous bi-hebdomadaires à pied, cela leur permet de traverser des petites villes, des bourgs et des villages qui ont assez peu accès à Internet et où les gens regardent principalement les médias d'État où évidemment le mouvement étudiant est largement brocardé par le régime du président Aleksandar Vučić. Donc cela permet d'avoir un contact avec les habitants, cela permet de se rendre compte que le mouvement est très populaire puisque les étudiants sont accueillis à bras ouverts comme des libérateurs, disent-ils, on leur offre le gîte, le couvert, on les soigne car ce sont des marches de plusieurs centaines de kilomètres parfois avec donc ce grand rendez-vous. Et hier soir à Niš, il y avait une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes pour accueillir les étudiants. Ils étaient 4 000 à être arrivés à pied d'un peu partout en Serbie. Et aujourd'hui, pendant 18 heures, le centre-ville de Niš a été transformé en une énorme zone piétonne où on voit toutes les critiques contre la corruption et contre le régime du président Vučić. Car même si les étudiants disent officiellement ne pas avoir d'objectif politique, il est évident dans le cortège que tout le monde souhaite la fin du régime d'Aleksandar Vučić, qui est maintenant au pouvoir depuis 13 ans en Serbie.
Et on les entend bien, les manifestants derrière vous, Laurent Rouy, en direct de Niš, en Serbie. Au lendemain des uppercuts reçus à Washington dans le bureau ovale, Volodymyr Zelensky bénéficiera sûrement d'un meilleur accueil à Londres. Le président ukrainien est déjà arrivé dans la capitale du Royaume-Uni. Il doit s'y entretenir avec le premier ministre britannique demain, avant un sommet avec les dirigeants européens qui s'annonce crucial. Keir Starmer l'a déjà assuré de son soutien indéfectible. Avant de quitter les États-Unis, Volodymyr Zelensky a pris soin de s'exprimer sur la chaîne conservatrice Fox News, histoire de livrer sa version des faits. Vincent Souriau.
À plusieurs reprises, le présentateur de Fox News lui demande s'il a l'intention de s'excuser auprès de Donald Trump. « Je ne crois pas que nous ayons commis un faux pas », rétorque Volodymyr Zelensky. « Entre alliés, il vaut mieux avoir des conversations franches et directes. »
Ce genre d'échange n'est bon pour personne, mais je ne peux pas revenir sur le positionnement de l'Ukraine face à la Russie. Pour nous, ce sont des tueurs. Ça ne signifie pas qu'on ne veut pas de la paix, nous voulons seulement que la réalité soit prise en compte.
Les remerciements, la reconnaissance reconnaissance que réclame la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky ne se fait pas prier sur Fox News. Merci à Donald Trump, au peuple américain, au Congrès. Vous nous avez aidé à survivre, dit-il. Mais si l'Amérique a un plan pour arrêter Vladimir Poutine, il faut que l'on puisse en parler.
Il y a peut-être des éléments que j'ignore. Ça ne fait pas partie du débat public aujourd'hui, mais il faut que nous puissions les partager. Un cessez-le-feu sans garantie de sécurité, c'est un sujet très délicat pour notre peuple. Je vous parle en tant que président d'un pays qui vit la guerre depuis 3 ans et qui a besoin d'entendre les États-Unis de notre côté, pas du côté des Russes, de notre côté.
Il nous faut une paix durable et juste, martèle le président ukrainien. Les Européens sont avec nous, mais nous avons besoin des États-Unis.
Et justement, de son côté, l'Europe fait bloc derrière Volodymyr Zelensky. Réaction quasi unanime sur le continent. Chers amis ukrainiens, vous n'êtes pas seuls, a ainsi écrit sur les réseaux sociaux le premier ministre polonais Donald Tusk. Le président français rappelle qu'il y a un agresseur, la Russie, et qu'il y a un peuple agressé, l'Ukraine. La chef de la diplomatie des 27, Kaja Kallas, estime que le monde libre a besoin d'un nouveau leader et que l'Europe doit relever ce défi. Réponse donc demain au sommet de Londres. Sans surprise, Viktor Orban s'est illustré dans ce concert des réactions. Le Premier ministre libéral hongrois a remercié Donald Trump pour avoir, je cite, « défendu courageusement la paix ». Le scénario a de quoi enthousiasmer aussi Vladimir Poutine. Le Kremlin salue un moment historique. Dans le sillage de Donald Trump, la Russie accuse Volodymyr Zelensky d'être obsédé par la poursuite de la guerre. Au Proche-Orient, la prochaine étape du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas semble suspendue. La première phase prend fin aujourd'hui, mais les discussions pour la suite n'ont pas encore abouti. Au Caire, les négociateurs tentent d'obtenir le retour de tous les otages israéliens de Gaza en échange de la libération de plusieurs centaines de Palestiniens incarcérés en Israël et du retrait complet des troupes de l'État hébreu de l'enclave palestinienne. En attendant, les États-Unis continuent de soutenir et d'armer Israël. Mathias Troud, bonjour.
Bonjour.
Une nouvelle vente d'armes, de munitions et d'autres équipements à hauteur de 3 milliards de dollars vient d'être approuvée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio tard hier soir.
Oui, et sur ces 3 milliards de dollars, 2 sont consacrés à près de 40 000 bombes Predator et Mark 84. Ces bombes d'une tonne ont fait des ravages pendant 15 mois de guerre à Gaza, livraison estimée en 2026, mais certaines bombes pourraient être livrées immédiatement si le stock américain le permet. Viennent ensuite des bulldozers et d'autres équipements de démolition qui seront livrés en 2027, il y en a pour 300 millions de dollars. Puis les 700 millions restants concernent d'autres bombes, ogives et kits de guidage, mais cette fois pour 2028. Une manière, selon le Pentagone, de, je cite, « renforcer la défense du territoire israélien et ses moyens de dissuasion ». Cette nouvelle vente d'armes a été faite en catimini. Le département d'État n'a informé le Congrès de cette vente que tard hier soir, au nom de l'urgence. La vente était donc déjà actée. La tradition veut pourtant que les commissions des affaires étrangères du Sénat et de la Chambre soient consultées.
Mathias Troud du service international d'RFI. Le ramadan commence et en Syrie cette année, il ne ressemblera en rien au précédent. C'est le premier depuis la chute de Bachar al-Assad et de son régime sanguinaire. Ambiance dans les rues de Damas avec notre correspondant Mohamed Erami.
Dans une rue du quartier de Mezeh, au sud de la capitale Damas, les habitants ont décoré les façades de leurs maisons avec des lumières pour célébrer l'arrivée du mois sacré. Joie et optimisme se lisent sur les visages des Syriens, comme l'exprime Om Mohammed, une sexagénaire.
Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, gloire à Dieu. Ce ramadan cette année a une ambiance différente après que nous ayons triomphé et été libérés. Louange à Dieu, et maintenant l'atmosphère est vraiment agréable, surtout dans les marchés et pour acheter les articles de ramadan.
Mais cette joie reste incomplète pour Mahmoud qui estime que la crise économique et la flambée des prix assombrissent la célébration du ramadan après des décennies de règne d'Assad.
Honnêtement, on peut dire que l'afflux dans les marchés pendant le ramadan est plus important cette année. L'année dernière, les prix étaient élevés pendant tout le mois sacré, mais les Syriens avaient un peu d'argent entre leurs mains. Alors que cette année, l'afflux est plus important et les prix sont moins chers, mais le problème réside dans le manque d'argent et de liquidité dans tout le pays.
Pendant plus de 50 ans, la famille Assad a gouverné la Syrie d'une main de fer, restreignant les libertés publiques et instillant, selon de nombreux Syriens, la peur au sein de la population. À Damas, Mohamed Erami, RFI.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute d'RFI, quasi 15h10, ici à Paris, une heure de moins, en temps universel.